Tamani.
Studio Tamani, voici nos informations en français.
Merci d'être à l'écoute de Studio Tamani, mesdames et messieurs. Bonsoir, voici les titres de ce journal. Ahmad Al-Faki demande pardon à la population de Tombouctou et au peuple malien pour les crimes qu'il a commis. L'ancien chef de la police islamique de Tombouctou l'a fait ce mardi devant la Cour pénale internationale CPI. Corruption dans les recrutements au sein de la police et de la protection civile, le parquet de la commune 4 met aux arrêts des présumés auteurs. Des détails dans ce journal. Les cotonculteurs du Mali accusent la CMDT de vouloir les diviser. Joint par Studio Tamani, les responsables de la compagnie malienne pour le développement textile ont opté pour le silence. Je suis Hamsi Toutouré à la présentation, à la mise en onde, Philly Dambélé. Comme annoncé dans les titres, l'ancien djihadiste Ahmad Al-Faki Al-Mahdi a présenté des excuses publiques à la population de Tombouctou et au peuple malien pour les crimes qu'il a commis. C'était ce mardi 12 octobre 2021 devant la Cour pénale internationale CPI. L'ex-chef de la police islamiste dans Sardine a assuré vouloir se mettre désormais au service de la paix et de la justice. Al-Faki demande à la Cour de le libérer par anticipation. Après avoir purgé les deux tiers de sa peine, les détails avec Intala Ag Bilal.
Costume gris, chemise bleu ciel, cravate bleue, Ahmad Al-Faki s'est adressé à la cour ce mardi. Je voudrais exprimer mon remords, ma tristesse, mes regrets à la population de Tombouctou, à mes concitoyens, à mon pays le Mali, pour les crimes que j'ai commis. L'ancien chef de la police islamique pendant l'occupation de la ville de Tombouctou entre 2012 affirme qu'il a changé. Il demande à la cour de lui donner l'opportunité de traduire ce changement en bonne action en faveur de la paix. Je me suis préparé à intégrer la société, j'ai appris de nouveaux métiers, j'ai acquis de nouvelles expériences pendant ma détention, ce qui a amélioré ma pensée, assure l'ancien djihadiste. Il demande à la cour de bien vouloir accepter son remords et son repentir. Ahmed assure également qu'il s'est entièrement dissocié du crime et de l'extrémisme. Al-Faki a demandé à la cour de lui enlever les menottes qui lient ses mains. La cour a remercié Al-Faki et a dit qu'elle examinera sa demande. Ahmed Al-Faki a été arrêté en 2015, puis jugé et condamné en 2016 à 9 ans de prison pour son rôle dans la destruction des mausolées et autres bâtiments historiques à Tombouctou. Des actes considérés comme des crimes de guerre.
C'est avec joie que les populations de Tombouctou ont accueilli ce pardon. Toutefois, l'association des victimes de la région souhaite que réparation soit faite. Elle demande également aux autorités du pays de protéger les victimes. Écoutons cette victime sous couvert d'anonymat, jointe par Mahamane Baba Kunta.
Lorsqu'un musulman demande pardon, nous aussi en tant que musulmans, nous ne pouvons que pardonner. Nous nous réjouissons de son pardon, de sa reconnaissance, du fait qu'il a touché à notre honneur, à notre dignité. Nous avons perdu des frères et des sœurs, mais aujourd'hui nous remercions Dieu à travers son pardon. Néanmoins, au-delà du pardon, il faudrait la réparation. Les victimes souffrent, elles ont perdu leurs biens, leur emploi. Nous demandons également aux autorités maliennes d'accepter de mettre en œuvre l'exécution de cette décision. Certainement, nous allons nous retrouver dans la cohésion, dans les pardons et les vivre ensemble.
Un convoi logistique des forces armées françaises a quitté Kidal ce matin, indique un communiqué de la force Barkhane. Cependant, le document précise qu'un détachement de la force reste sur place. Il est chargé de conduire les dernières formalités administratives et logistiques avant le transfert définitif de l'emprise dans les prochaines semaines. Réagissez à toutes ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte Twitter. C'est toujours l'incertitude concernant la tenue des élections présidentielles et législatives prochaines. Le ministre des Affaires étrangères a laissé entendre qu'il serait difficile de tenir les élections à la date indiquée. Il l'a fait savoir hier lundi lors de sa visite au Maroc. Autre sujet, la rentrée scolaire 2021-2022 des établissements de l'éducation préscolaire et spéciale des enseignements fondamentaux, secondaire général est prévue pour le 1er novembre 2021. Les promoteurs des écoles privées n'ont pas apprécié cette décision du gouvernement. Plus de détails avec Hawa Berthé.
Après une fin d'année 2020-2021 marquée par des grèves décrétées par les syndicats signataires du 15 octobre 2016, le ministère de l'Éducation nationale a décidé de fixer la rentrée scolaire 2021-2022 au lundi 1er novembre. La décision est mal perçue par les promoteurs des écoles privées. Certaines écoles privées ont tenté de se déroger à ces calendriers. Le secrétaire général du ministère de l'Éducation, par une lettre circulaire, a rappelé à tous les partenaires de l'école à respecter la date du 1er novembre. Pour les promoteurs d'écoles privées, ils sont obligés de respecter la date proposée par le gouvernement malgré tout ce que cela peut leur causer comme tort.
Le parquet de la commune 4 du district de Bamako a procédé hier à des arrestations suite à des plaintes dénonçant la corruption des recrutements au sein de la police et de la protection civile. Selon le substitut du procureur, le corrompu, un policier complice et les corrupteurs ont tous été arrêtés. Leur jugement est prévu pour janvier 2022. Marco Sissoko, substitut du procureur de la commune 4 du district de Bamako, est au micro de Adama Amadou Haïdara.
Il se trouve que les parents étaient allés voir un monsieur qui prenait de l'argent avec les parents, même avec des jeunes, en leur promettant qu'ils seront bel et bien recrutés dans le passé. Des gens qui démarchaient, au fait, les supposés escrocs-là, on leur mettait juste en garde. On a changé le fusil d'épaule maintenant. Et une fois que vous allez donner de l'argent à quelqu'un pour être recruté au concours, peut-être gérer ça entre vous. Une fois que ça vient au parquet, le monsieur qui a perçu l'argent et vous qui allez donner l'argent, vous êtes tous deux frappés par le même bâton. C'est ce qui s'est passé hier chez nous. On a non seulement pris le monsieur qui avait perçu l'argent, mais tous ceux qui se sont déplacés pour aller lui remettre l'argent. Leur jugement, je crois, c'est prévu pour le 11 janvier prochain. Il y a d'autres plaintes, mais je sais maintenant que beaucoup vont désister de leur action parce qu'ils savent maintenant qu'être plaignant dans ce genre d'histoire peut être amené en présomption. Mais nous, voilà, on va poursuivre les procédures.
La Confédération des sociétés coopératives des producteurs de coton du Mali s'insurge contre l'installation du nouveau bureau national de l'interprofession du coton au Mali qu'il qualifie d'une imposition. Ses membres accusent la Compagnie malienne pour le développement textile, CMDT, de vouloir diviser les cotonculteurs. Ces derniers avaient prévu une assemblée ce mardi matin 12 octobre 2021. Empêchés par les forces de l'ordre d'accéder à leur local, ils s'exprime au micro de Draman Maïga.
Nous avions dit en 2014 que nous n'accepterons pas d'imposition, cause pour laquelle le nouveau bureau a été installé en commun accord depuis la base dans les différentes coopératives. Ce qui a conduit Bakary Koné à la tête du bureau national. Mais ils veulent nous imposer un certain Souleyman Fomba pour un soi-disant bureau transitoire.
C'est pour cela que nous sommes là ce matin, pour une réunion. Et les policiers nous empêchent d'accéder à notre local. Le Mali est pour nous tous.
On a fait un renouvellement, nous avons un bureau légitime et légal, donc les producteurs ne sont pas d'accord avec ça.
Je viens du secteur de Kemparana. Plus de 20 ans, j'ai produit et rempli des véhicules du coton. Mais durant cette transition, ils veulent imposer des choses aux cultivateurs et nous ne sommes pas d'accord.
Joint par la rédaction de Studio Tamani, les responsables de la Compagnie malienne pour le développement textile, CMDT, n'ont pas souhaité réagir. Donner la parole aux filles à travers les numériques tout en les protégeant contre la COVID-19, c'est le thème de la journée internationale de la fille célébrée ce 11 octobre 2021 à Bamako sous la présidence du ministre de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Les initiateurs estiment que cette édition est pleine de sens en matière de protection du droit des filles. Notre reporter Draman Maïga était présent à la cérémonie.
Samake, oui Koulibaly, ta fille sait vraiment parler.
Des sketchs, chants, mais surtout des plaidoiries en faveur du droit des filles ont retenti devant une instance de plus de 200 personnes. Nouhoum Chérif Haïdara, président du Parlement des enfants du Mali.
L'occasion de plaider en faveur de l'éducation de la fille et en son maintien à l'école. Je suis aussi au regret de dénoncer les cas de mariage précoce forcé. Les petites filles sont encore victimes d'excisions et d'autres pratiques nuisibles à leur santé.
Des filles maliennes émancipées et épanouies, c'est le souhait de Habibatou Diko, la ministre de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille intronisée à l'occasion de cette journée.
On m'a m'a donné la chance et c'est aussi capable que toutes les autres filles le fassent. J'aimerais voir dans le futur, Inch'Allah, beaucoup plus de filles ministres, ambassadrices et pourquoi pas présidentes de la République.
D'autres appels sont lancés pour le bien-être des filles. Dédé Ogassama, directrice pays d'Oxfam.
Avoir accès à la connexion, ça peut nous permettre de découvrir le monde. Nous voulons étudier lorsque ce n'est pas possible de le faire en présentiel.
Au Mali, en 2018, 53% des filles se marient avant l'âge normal. Et 73% des filles de 0 à 14 ans sont excisées, selon le président du Parlement des enfants.
Studio Tamani, financé par le gouvernement de la Suède, du Danemark, de la Suisse, la République tchèque et par l'Union européenne.
Cap maintenant sur l'actualité dans les régions. Enfin, de l'eau potable dans les localités de Calais et Tangafoya, commune de Maïna. Ces villages situés dans la commune rurale de Maïna ont désormais des forages à pompe manuelle. Les travaux ont pris fin ce dimanche. Des femmes indiquent que ces infrastructures vont réduire drastiquement les problèmes liés à la pénurie d'eau potable dans leurs localités respectives. Le coût de ces deux forages s'élève à plus de 8 millions de francs CFA. Les infrastructures ont été entièrement financés par la Direction nationale de l'hydraulique. À présent, nous recevons Mouamadou Touré pour l'introduction du Grand Dialogue. Bonsoir Mouamadou.
Bonsoir Amsetou Bobo Touré.
Quel est le thème du Grand Dialogue d'aujourd'hui?
Que valent les diplômes du Mali aujourd'hui? C'est le thème du débat et nos invités sont Dr Mourike Dambélé, pédagogue, enseignant-chercheur à l'Université de Bamako et Koumba Yarissi, enseignante à la retraite.
Merci Mouamadou et bon débat. Vous pouvez réécouter toutes ces informations sur notre site web au www.studiotamani.org ou en appelant gratuitement sur la plateforme Viamo au 37 321. C'est la fin de ce journal, mais retrouvez-moi tout à l'heure pour la question A. Studiotamani. Plus de 1700 personnes sont mortes du paludisme en 2020 au Mali, témoigne un responsable de l'unité de recherche clinique de Bougouni. L'Organisation mondiale de la santé a recommandé le 6 octobre 2021 le déploiement massif en Afrique subsaharienne du premier vaccin contre le paludisme chez les enfants. Ce vaccin dénommé RTSS, fabriqué par le laboratoire GSK, est le résultat de plusieurs chercheurs, dont ceux de notre pays, indiquent les responsables du centre de lutte contre le paludisme au Mali. C'est un événement extrêmement important, déclare le professeur Alassane Diko de l'unité de recherche clinique de Bougouni et Welesebougou. Mais il souligne qu'il faut des rappels avec ce vaccin. Il est au micro de Mamadou Samasekou.
Le vaccin a une efficacité sur plusieurs mois, okay? Mais cette efficacité, ça s'en va. Il a été montré que quand vous donnez des doses de rappel, l'efficacité revient. Notre contribution a été de montrer que ce vaccin, quand vous le donnez, en début de saison de transmission, vous aurez le plus grand impact. Un impact drastique de réduction de mortalité, un impact drastique dans la réduction des hospitalisations, et que vous pouvez donner le vaccin de façon annuelle, en début de saison, c'est-à-dire des doses de rappel chaque année, et que cela est aussi bien toléré, et que cela maintient l'efficacité du vaccin sur plusieurs années.
Donc, si je comprends bien, ce vaccin, tout le monde peut le faire, ou bien c'est juste les enfants, comme ils l'ont dit?
Les enfants sont les plus touchés. Il faut commencer à partir de l'âge de 5 mois, mais en-delà de ça, il n'y a pas de limite supérieure pour les enfants. Vous pouvez le donner aux autres. Et donc, ceux qui doivent être ciblés doivent être les enfants de 5 mois à 5 ans. Nous sommes en train de collecter des données davantage pour voir si effectivement il faut l'étendre au-delà de 5 ans.
Ça peut être effectif quand au Mali l'utilisation de ce vaccin?
Il fallait avoir cette recommandation d'abord pour dire que le vaccin doit être déployé. Dès que des recommandations comme ça arrivent, il y a des groupes dont leur boulot c'est de voir aller à la production du vaccin. Je pense que vu l'importance du paludisme, vu le poids du paludisme, il va y avoir des efforts extrêmement importants pour accélérer afin que le vaccin soit disponible pour les pays africains.
Est-ce que vous avez déjà une idée de comment procéder à ça au Mali? Par où commencer tout ça?
C'est un vaccin que tous les pays cherchent. Donc il est important que le Mali fasse sa part de lobbying pour montrer l'engagement de nos autorités pour la mise à disposition de ce vaccin aux populations.
Par ailleurs, votre centre avait déjà fait des recherches, je crois, hein, parallèlement à tout ça, et qui restait à être homologué. Où en sommes-nous avec ça?
C'est le même vaccin RTSS. Donc, nous travaillons sur ce vaccin-là. Nous avons un autre vaccin cousin de celui-là que nous sommes en train de tester, qui a un stade avancé de phase 3, que si ça se confirme, ça viendra améliorer l'approvisionnement des vaccins. Parce que comme dans le cadre de la COVID, c'est important d'avoir des vaccins de différentes sources.
La collaboration entre vous et le programme de lutte contre le paludisme, c'est comment?
Elle est à merveille. Même maintenant, nous sommes en contact avec eux pour discuter de la recommandation de l'OMS et voir avec eux quelles vont être les prochaines étapes.
C'est sûr que ça aura un impact sur la lutte contre le paludisme, ce vaccin?
Ça va avoir le plus grand impact qu'on a jamais vu dans les interventions contre le paludisme, si nous le donnons de la façon que nous avons expérimenté au Mali. C'est ce que nos données ont montré. En matière de science, il faut laisser les données parler.